Vous écoutez France Culture.
Le Monde selon Hubert Védrine, comme chaque vendredi, ce matin par téléphone. Alors vous amorcez notre émission consacrée à la campagne des européennes avec une question qui se pose forcément aujourd'hui, Hubert Védrine. Faut-il s'attendre à un raz-de-marée eurosceptique ?
Eh bien, je répondrai oui. Il n'y aura pas de surprise. Il y aura évidemment beaucoup de commentaires, des déluges d'appréciation ou d'expressions d'inquiétude après, mais il est clair que si on considère que les abstentionnistes sont d'abord et avant tout des sceptiques par rapport à l'Europe, et si on voit que dans les dernières élections, ils sont rapprochés des 60% d'abstention, on peut dire que le premier parti en Europe, c'est celui des eurosceptiques, mais on ne le comprend que si on distingue entre les eurosceptiques et les euro-hostiles. Et on a trop souvent pris l'habitude de les confondre. Or, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes votes, on n'y répond pas de la même façon. Les euro-hostiles, en France, c'est le Front National ou c'est Mélenchon, par exemple. Ils sont vraiment hostiles, vous voyez. Mmh. Alors que là, on a affaire à une sorte d'euroscepticisme qui s'exprime soit par un vote un petit peu comme ça, d'habitude ou de routine, pour le PS ou pour l'UMP, je parle des élections européennes uniquement, ou alors carrément par l'abstention.
Mais alors, les eurosceptiques, c'est de l'indifférence ?
C'est un mélange, au sens propre du terme, c'est un mélange de déception. Ils n'étaient pas contre, c'est plutôt bien ce qu'on a fait, mais ils ne se retrouvent plus dans l'Europe telle qu'elle est. Et comme l'Europe, en plus, est devenue un concept extrêmement confus, un mot valise, comme disent les linguistes. Tout le monde projette d'être sur l'Europe, tout et n'importe quoi. Il a commencé par des attentes irréalisables. Donc ça alimente une sorte de mécontentement permanent. À côté de ce bloc, les vrais euros hostiles, alors il faudrait détailler pays par pays, mais là on n'a pas le temps, bien sûr, c'est quand même 20-25% les vrais hostiles. Quant aux militants européistes, fédéralistes à l'ancienne, qui sont assez importants dans les médias, parce que souvent les gens qui suivent les questions européennes, qui sont compliquées, sont un peu des militants de cette belle idée. Ils sont électoralement presque rien, enfin c'est 1 ou 2%. Donc c'est sûr d'avance que dès le lendemain des élections, il y aura des commentaires d'autant plus inquiets qu'on donne souvent maintenant les résultats en pourcentage et pas en voix. Et qu'évidemment, le fait que des masses importantes de l'électorat s'abstiennent, ça fait monter mécaniquement ceux qui vont voter, c'est-à-dire ceux qui sont furieux.
Donc on s'attend à un raz-de-marée, comme vous dites, eurosceptique, mais aussi à une forte montée, forte progression des partis euro-hostiles, en tête desquels le Front National ici en France,
oui,
qui en fait en tout cas un combat.
Mais si on se met à dire après, le Front National monte, c'est terrible, ça sera peut-être pas vrai, il faudrait comparer en voix. Vous voyez, au municipal par exemple, le Front National récemment n'est presque pas plus de voix que la fois d'avant. Mais optiquement beaucoup plus, parce que les autres s'étaient abstenus. Alors par rapport à ça, il me semble que beaucoup de thèmes de campagne, qu'est-ce que peut-être vous entendrez aujourd'hui que vous invitez, ou à d'autres moments, beaucoup de thèmes de campagne par rapport à ça ne fonctionnent pas très bien. Alors d'abord, tous les thèmes européistes classiques, l'Europe c'est la paix, la jeunesse, l'avenir, tout ça n'a plus aucun effet sur l'électorat. D'autre part, s'indigner du vote extrémiste ou le condamner, avec des comparaisons un peu grandiloquentes avec les années 30 ou autres, ça n'a aucune espèce d'effet. Parce que les gens qui votent pour ça votent pour choquer, pour attirer l'attention. C'est la dernière étape, en quelque sorte, avant le découragement complet et l'abstention. Donc ils votent pour choquer. Plus ils choquent tous les milieux convenables ou les milieux un peu moralistes sur la politique, plus ils sont confortés dans ce vote. Donc à mon avis, ça fonctionne mal. Faire la liste des apports de l'Europe, en disant c'est l'Europe qui a financé telle route, telle autoroute, ce qu'on a beaucoup fait en Grèce pendant longtemps, ça n'a pas tellement d'effet parce que comme la plupart des gens en Europe ont le sentiment que leur propre contrôle sur leur propre destin, leur propre vie, ce qui leur reste de souveraineté, terme qui a été injustement rendu péjoratif, que tout ça leur échappe. Donc faire l'analyse de ce que l'Europe a apporté, ça n'a pas tellement d'effet pour le vote.
Mais...
Et ceux qui disent un peu mécaniquement toujours il faut plus d'Europe, provoquent le même réflexe, parce que maintenant dans beaucoup de pays, si les gens entendent plus d'Europe, ils entendent moins de France ou moins d'Espagne ou moins de Danemark, etc.
Mais c'est vrai que ceux qui pensent que chaque État a perdu un peu de sa souveraineté ont des arguments à faire valoir, et la Grèce en est l'exemple le plus flagrant, Hubert Védrine.
Oui, bien sûr, mais justement, ça ne fait pas un argument de campagne pour faire revoter les gens. Alors, il faudrait, dans cette confusion générale, il faudrait être beaucoup plus précis en disant il ne s'agit pas de l'Europe en général, ça ne va pas changer complètement votre vie, mais il y a un Parlement européen qui est censé contrôler la Commission, qui a certains pouvoirs, pas tous les pouvoirs, il y a plein de choses qui relèvent des États-nations, ou de la région, ou de la commune. Hein. Et donc, est-ce que vous voulez des parlementaires européens représentants? dans votre biais, si vous voulez qu'il soit à gauche ou à droite ou protestataire, il faudrait recirconscrire, à mon avis, plutôt qu'une justification par des commentaires trop généraux sur l'Europe. Je pense qu'il faudra, on va le voir après l'élection, hein, mais on va être obligé d'admettre que, en tout cas, dans l'état actuel des mentalités, il y a une vraie contradiction pour le moment insoluble entre supranationalité et démocratie. Et que tout ce qui a été construit en termes de démocratie supranationale à travers le Parlement européen n'a pas du tout produit les effets escomptés. J'ai entendu à Paris, il y a quelques mois, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt rappeler comment ils avaient décidé l'élection du Parlement européen au suffrage universel et pourquoi finalement ça n'avait pas marché. Ça a produit cette conscience européenne. Donc je crois qu'il va falloir beaucoup de lucidité, d'analyse, et que l'émotion, l'indignation, l'inquiétude ne vont pas aider à cette analyse sur ce résultat.
Eh bien écoutez, on va soumettre cette réflexion à nos deux invités tout à l'heure, deux députés européens qui se présentent aux élections, Arnaud Danjean pour le Parti Populaire Européen à 7h40, Pervenche Berès pour le Parti Socialiste à 8h15. Le scrutin est dans un peu moins de 3 semaines, c'est le dernier jour aujourd'hui pour le dépôt des candidatures. Merci Hubert Védrine.